Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Soudan, le mouvement de contestation entre aujourd'hui dans son troisième mois. Déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, les manifestations se sont transformées en contestation du président Omar al-Béchir, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1989. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le 19 décembre. Mais l'ONG de défense des droits humains basée à New York, Human Rights Watch, évoque le chiffre de 51 morts, dont des enfants et des personnels médicaux. Élections au Nigeria, la CENI, la commission électorale nigériane, est sous forte pression des partis politiques pour avoir interdit la poursuite de la campagne électorale après avoir reporté les élections générales initialement prévues samedi dernier au samedi suivant, soit le 23 février. Plus de détails avec le correspondant de VOA Africa, Abuja, Gilbert Tamba.
Malgré cette interdiction, les deux principaux partis, l'APC du président sortant Muhammadu Buhari et le PDP de son principal adversaire Atiku Abubakar, menacent de reprendre leur campagne électorale. Le PDP avait en premier lieu rejeté le report des élections par la CENI. Kola Oluwadunyan, le porte-parole de son parti, met en cause les manœuvres du président sortant et le parti au pouvoir.
Nous avions exprimé notre préoccupation sur les relations entre le président Buhari et la CENI, sur les problèmes de logistique et leur mode d'opération. Nous avons aussi exprimé notre préoccupation. En plus, nous avions déclaré que toutes ces préoccupations que nous n'avons cessé de mentionner étaient dans l'intérêt de la CENI.
Comme l'opposition, le parti au pouvoir, APC, promet de poursuivre sa campagne, affirmant que c'était le seul moyen de garder ses partisans intéressés par les élections. Les deux principaux partis affirment que la décision de la commission électorale de ne pas autoriser la campagne est illégale. Mais que dit justement la loi électorale? La réponse de l'avocat Ogenovo Otemu.
La loi prévoit que la campagne peut se poursuivre jusqu'à 48 heures avant l'élection. Donc si la dite élection est reportée, cela rouvre ainsi la voie la poursuite de la campagne. Donc c'était injuste pour le président de la commission d'interdire la campagne. Je pense qu'il n'a pas bien consulté le département légal avant de faire cette déclaration.
Le report des élections samedi dernier par la CENI à quelques heures de l'ouverture des bureaux avait suscité une vague d'indignation dans le pays. Certains électeurs s'étaient déjà rendus devant leur bureau de vote pour pouvoir voter. La commission électorale nationale indépendante devait tenir une réunion d'urgence lundi pour se pencher sur la question. Le parti au pouvoir, réuni ce matin, a demandé au gouvernement fédéral l'ouverture d'une enquête pour déterminer les raisons qui ont poussé la CENI à reporter les élections présidentielles et législatives du samedi. Le président sortant Muhammadu Buhari, qui a assisté à la rencontre, a demandé aux agences de sécurité de prendre des mesures contraignantes contre ceux qui vont chercher à perturber le scrutin du 23 février prochain. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Élection au Sénégal, plus que quelques jours avant la présidentielle du dimanche 24 février. Les candidats à la magistrature suprême sont en pleine campagne électorale. Le président Macky Sall, qui brigue un second mandat, est donné favori par la plupart des analystes politiques. Guinée-Bissau, le président bissau-guinéen José Mario Vache a nommé lundi un nouveau ministre de l'Intérieur alors que le pays vient d'entrer en campagne pour les élections législatives du dimanche. Edmundo Mendes, 46 ans, ancien procureur et professeur de droit à l'université Amilcar Cabral, a été désigné à ce poste laissé vacant suite au limogeage en novembre de Moutaro Diallo au lendemain de la répression d'une manifestation d'étudiants. Il s'agit d'une nomination de consensus réclamée par la communauté internationale ainsi que les partis politiques et la société civile qui créent des violences pendant la campagne électorale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
République démocratique du Congo, l'opposant congolais Martin Fayulu, qui se proclame vainqueur de l'élection présidentielle en RDC, est en campagne pour exiger la vérité des urnes. Comparant sa situation avec celle du président autoproclamé Juan Guaido au Venezuela. Monsieur Fayulu, qui conteste l'élection de son ex-confrère opposant Félix Tshisekedi, est arrivé lundi à Goma, chef de la province du Nord Kivu, après deux précédentes étapes à Beni et Butembo dans l'est du pays, région en proie à la violence des groupes armés. la CENI, la Commission électorale nationale, puis la Cour constitutionnelle ont proclamé Félix Tshisekedi vainqueur avec 38,5% des voix et Martin Fayoulou deuxième avec 34%. Ce dernier accuse le président de la CENI, Corneille Nangaa, d'avoir fabriqué les résultats et il dénonce un putsch électoral orchestré par l'ex-président Joseph Kabila. RDC toujours, les salariés de l'entreprise publique minière Gécamines ont dénoncé lundi auprès du président Félix Tshisekedi la gestion calamiteuse de l'ex-fleuron de l'industrie nationale par un proche de son prédécesseur Joseph Kabila. Irénée Hermann Ongbo nous en dit plus.
Dans leur mémorandum au nouveau chef de l'État, les agents de la Gécamines accusent Albert Yuma, gérant de la Générale des Carrières et des Mines, de dilapider l'argent de l'entreprise dans la rémunération des membres du conseil d'administration. Les dirigeants sont nommés sans qu'on ne tienne compte de leurs compétences, dénoncent-ils, déplorant l'appartenance à un parti politique comme seul critère de compétence. Ils affirment que la production du cobalt propre à la Gécamines est tombée de plus de 100 à moins de 62 tonnes entre 2017 et 2018. Comme à peu près tous les salariés des entreprises publiques, ils exposent également des revendications sociales, notamment le licenciement massif. Ils disent compter sur l'esprit de changement qu'incarne le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, pour résoudre leurs problèmes. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, un minerai stratégique utilisé dans les batteries électriques. Elle a cédé ses gisements à des entreprises privées à capitaux étrangers.
Au Mozambique, le fils de l'ex-président mozambicain Armando Guebuza reste en prison. Un tribunal a ordonné lundi le maintien en détention de Ndambi Guebuza, arrêté samedi dernier dans une affaire de corruption. Plus de détails avec Yakuba Ouedraogo.
Un juge de Maputo a estimé que Ndambi Guebuza, homme d'affaires, devait rester derrière les barreaux jusqu'à son procès. Le fils de l'ancien chef de l'État figure parmi les 8 personnes arrêtées la semaine dernière. L'assistante personnelle de l'ancien chef de l'État et l'ex-patron des services de renseignement ont aussi été interpellés. La justice leur reproche d'avoir participé au détournement d'une partie de 2 milliards de dollars de prêts dissimulés au Parlement et aux bailleurs internationaux accordés à partir de 2012 à 3 entreprises publiques pour l'achat de bateaux militaires et de pêche. Ces sommes, estimées à au moins 500 millions de dollars dans un audit, auraient servi à payer des pots de vin à des banquiers, des hommes d'affaires et des personnalités politiques. La justice américaine a aussi ouvert une enquête sur ce dossier. Sur sa requête, l'ex-ministre des Finances Manuel Chang a été arrêté fin décembre en Afrique du Sud et risque une extradition vers les États-Unis. Selon l'acte d'accusation américain, Ndambi Guebuza aurait reçu pour sa part 9,7 millions de dollars de pots de vin. Il a dénoncé une arrestation politique.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Agitation au Venezuela. Le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde aux chefs militaires du pays en leur disant qu'ils allaient à leur perte s'ils refusaient de se rallier à l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les yeux du monde entier sont braqués sur vous aujourd'hui, a averti M. Trump dans un discours prononcé à Miami devant la communauté vénézuélienne de Floride. Il a exhorté les officiers vénézuéliens qui restent loyaux au président Nicolas Maduro à laisser entrer l'aide humanitaire dans leur pays.
You can choose to accept President Guaido's generous offer of amnesty.
Vous pouvez choisir d'accepter l'offre généreuse d'amnistie du président Guaido et vivre en paix auprès des vôtres. Sinon, vous pouvez choisir la seconde voie. Continuez à soutenir Maduro. Dans ce cas, vous n'aurez aucun endroit où vous réfugier, pas de sortie possible. Vous perdrez tout, a averti le président américain. L'occupant de la Maison Blanche, accompagné de son épouse Melania, et très applaudi par les exilés vénézuéliens, a qualifié le président socialiste Maduro que Washington ne veut plus voir au pouvoir de marionnette cubaine. Tout en disant préférer une transition pacifique, Donald Trump a répété que toutes les options étaient sur la table concernant ce pays secoué par une grave crise économique qui a provoqué l'exil de plus de 2,3 millions de ses habitants, selon l'ONU. Le Venezuela est entré lundi dans une semaine sous haute tension, Juan Guaido assurant que l'aide humanitaire américaine serait acheminée coûte que coûte samedi dans le pays, malgré le refus catégorique de M. Maduro. Le conflit autour de la distribution de l'aide est au centre de l'échiquier diplomatique. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et Cuba, soutien de Nicolas Maduro, condamnent l'ingérence des États-Unis et d'autres gouvernements.
Ici aux États-Unis, les négociations commerciales États-Unis-Chine qui doivent mettre fin à la guerre des droits de douane déclenchée par le président Donald Trump vont reprendre aujourd'hui à Washington. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.